Bon, comme ça a été dit ce matin.
Oui, j'ai allumé, mais je commence déjà.
Comme ça a été dit ce matin, nous sommes dans une série de messages qui concernent la construction. Et je reprends le titre que Roland a choisi parmi les trois titres proposés, « Construire l'Église, un témoignage dans la région ». Et avec ce thème, nous allons parcourir deux livres, justement, Esdras et Néhémie, en rapport avec la construction du bâtiment que nous sommes en train de faire, mais en même temps aussi en ayant en arrière-plan l'Église. Donc, quand je parle de l'Église ici, bien sûr, je fais allusion au bâtiment qui est en train d'être construit, mais aussi à l'Église composée par des croyants, c'est-à-dire la communauté des disciples. D'ailleurs, la définition de l'Église, c'est cette association, c'est cette assemblée de croyants qui confessent, qui croient, qui adorent et qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur. Donc, il y a les deux. Alors, pourquoi avoir choisi Esdras et Néhémie? En fait, ce sont des bâtisseurs avec Dieu. Et nous sommes appelés à bâtir. Et j'espère qu'au travers de ces messages qui ont été déjà apportés sur Esdras et aussi au message que je vais apporter aujourd'hui sur Néhémie, qu'on soit encouragé dans cette manière pour bâtir l'Église, pour affermir l'Église, pour construire l'Église, pour que l'Église soit à la gloire de Dieu. La clé ? Ah, ma clé ? Ah oui, c'est dedans. Parfois, la technique joue des tours. J'espère pas qu'il y ait un impact négatif sur le message. Donc, Esdras et Néhémie sont des bâtisseurs avec Dieu. Les deux hommes sont arrivés à Jérusalem pour restaurer. Esdras pour restaurer le temple. Et puis, Néhémie, c'est pour restaurer la muraille. Et entre les deux, il y a en fait environ 13 ans. Donc, Esdras est venu, il a rebâti le temple. Et 13 ans après, Néhémie vient pour rebâtir aussi la muraille. Donc, on peut vraiment dire que ce sont des bâtisseurs avec Dieu. Et il y a un parallélisme par rapport à nous aujourd'hui, dans le sens que nous sommes aussi appelés à bâtir. Et permettez-moi aussi de revenir un peu sur les messages précédents. Super. Merci. Le message précédent, tout d'abord sur Esdras. Le premier message, c'est sur Esdras 3, verset, oui, tout le chapitre 3, qui parle du début de la restauration du temple. Et en fait, c'est intéressant parce que selon la logique humaine, si on veut construire quelque chose, si on veut protéger une ville, on commence d'abord par la muraille. Et après, on construit le temple. Alors que là, c'est d'abord le temple et après la muraille. Donc, il y a un processus inversé qui n'est pas dans une logique humaine, mais qui souligne en fait l'importance de mettre Dieu au centre. Et la priorité est donnée à Dieu. Et en fait, ils sont appelés à se mettre sous la protection de Dieu avant de poursuivre la reconstruction du temple et de la muraille. Et ce qui a été relevé la dernière fois au travers du message de Roland, cette priorité qui est donnée à Dieu. Et dans le deuxième message, c'est Esdras 4 qui parle des oppositions de l'ennemi avec ses trois pièges, je dirais. Tout d'abord, le piège sur une proposition de collaboration alors que c'est trompeur. Et puis après, sur cette intimidation. Et puis à la fin, par rapport à une accusation. on peut voir au travers de cela aussi l'œuvre de l'ennemi pour décourager les chrétiens à bâtir. Mais on voit que on peut avancer en plaçant notre confiance en Dieu. Mais malgré tout, le combat est là. Combattre dans cette confiance, avec cette confiance en Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Néhémie, en particulier de la reconstruction de la muraille. Et le titre que j'ai choisi pour ce message, c'est en fait l'Église témoin de la grâce de Dieu. En fait, c'est dans la lignée de ce thème en général, construire l'Église, un témoignage dans la région. Mais on est témoin de quoi dans cette région? Si on veut construire une Église, bâtiment, à côté, c'est pourquoi? Pourquoi sommes-nous ici et maintenant? À quoi ça sert l'Église? Une des réponses à cela, qui m'est venue en tout cas dans ma préparation, c'est le mot « grâce de Dieu ». L'Église est témoin de la grâce de Dieu. Si je parle de l'Église comme bâtiment, l'Église est le lieu où se manifeste la grâce de Dieu. Mais si je parle de l'Église comme communauté de disciples, l'Église est témoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans nos vies, la grâce de Dieu dans la vie de l'Église. Et pour moi, c'est tellement important parce que aujourd'hui, en Occident et en Suisse, nous sommes dans ce processus de déchristianisation. Et l'Église a une image négative parce qu'on l'associe souvent à des guerres, à des abus de toutes sortes ou à une privation de liberté. Il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Ils empêchent de vivre. Certains disent même que ce sont des empêcheurs de vivre. Il y a toute une série d'images négatives qui accompagnent l'Église. Au point qu'on peut même dire que l'Église est une institution d'un temps révolu. Malheureusement, il y a du vrai dans tout cela. Mais il s'agit malgré tout d'une image erronée de l'Église telle qu'elle est décrite dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et nous avons aussi des éléments qui permettent de dire que l'Église est un lieu de grâce dans l'Ancien Testament. Et c'est pour cela que je choisis justement Néhémie pour parler de cette reconstruction. Au travers de la restauration de la muraille, on peut voir la grâce de Dieu qui relève. On peut voir la grâce de Dieu qui restaure. Et que la fin, ce ne sont pas les brèches, ce n'est pas la destruction. Mais c'est ce que Dieu fait au travers, c'est ce que Dieu fait pour restaurer la situation. Ah, pardon. Et c'est ce qu'on va voir au travers de l'inspection de la muraille et aussi de l'encouragement que Néhémie donne à tout son peuple pour bâtir, rebâtir la muraille. Il a entendu des nouvelles et il est allé sur place et il a inspecté le lieu, il a voulu voir de ses propres yeux, il a voulu lui-même expérimenter les choses qu'il a entendues. Et quand il a vu la situation, il est allé voir le peuple pour encourager le peuple à rebâtir. Et c'est pour ça que je vais lire ce texte dans Néhémie chapitre 2, à partir de verset 11. Une fois arrivé à Jérusalem, j'y restai 3 jours. Puis je sortis de nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur d'entreprendre en faveur de Jérusalem. Je ne disposais pas d'autre bête que de ma propre monture. Je sortis cette nuit-là par la porte de la vallée et je me dirigeai vers la source de Dragon et vers la porte du fumier. J'examinai les remparts de Jérusalem. Je constatai qu'il y avait des brèches presque partout et que la porte avait été détruite par le feu. Je poursuivis vers la porte de la source et passai près de l'étang du roi. Mais il n'y avait plus de passage pour ma monture. Je remontai toujours de nuit par la vallée du Cédron et continuant d'examiner la muraille. Puis je fis demi-tour et je rentrai par la porte de la vallée. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais informé ni les juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. C'est alors que seulement je leur dis « Vous voyez vous-même quel est notre malheur. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été détruites par le feu. Allez, reconstruisons le rempart de Jérusalem pour que nous ne soyons plus dans cette situation humiliante. » Je leur racontai ensuite comment la main bienveillante de mon Dieu avait agi pour moi avec bonté et je leur rapportai ce que l'empereur m'avait dit. Ils s'écrièrent aussitôt « Levons-nous et effectuons les travaux de reconstruction. » Ainsi, ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre. Je saute et je reprends au chapitre 3, verset 1. Eliashib, le grand prêtre, se mit au travail avec ses collègues, les prêtres, et ils se chargèrent de la reconstruction de la porte de brebis. Ils la consacrèrent et posèrent les bâtons, puis ils continuèrent à réparer la muraille, qu'ils consacrèrent jusqu'au tour de Méa, puis jusqu'à la tour de Ananéel. Et puis je lis le dernier, donc le verset 32, pour boucler la boucle. Les orfèvres et les marchands réparèrent la muraille entre ce poste de l'angle et la porte de brebis. Donc voyez, on commence par la porte de brebis. Dans l'organisation des travaux, on termine par la porte de brebis. C'est un peu difficile de réaliser tout cela. Alors j'ai pris cette image pour qu'on se rende un petit peu compte, en fait, de ce trajet, hein, de cette inspection faite par Néhémie. Et on voit qu'il a commencé ici. Je ne sais pas si on peut montrer tout en haut. Voilà. En fait, c'est la porte utilisée par Néhémie. Et il a inspecté jusqu'à cette partie-là. Et quand il a parlé de remonter ici, c'est la vallée de Cédron. Donc, c'est le numéro 13. Et puis, ce sont les différentes portes qu'il a relevées tout à l'heure. Porte de la vallée, porte du fumier, et puis porte de la source. Et puis après, il remontait un peu ici, puis après, il a fait demi-tour pour revenir jusqu'à la porte de la vallée. Donc, il a inspecté les trois portes et les murailles attenantes. Et puis, quand Néhémie a parlé de l'organisation des travaux, il a commencé par la porte des brebis, ici. Et voilà, ça c'est le tour d'Ananéel. Ananéel, voilà. Mais il a commencé par là. Et puis, après la description des travaux, va dans ce sens contraire de la direction de la montre. Puis à la fin du passage que j'ai lu tout à l'heure, donc ils ont commencé par la porte de brebis ici, et ça va dans ce sens, et ça se termine par là, pour construire la tour de Jérusalem. Et j'ai essayé un petit peu de comprendre pourquoi Néhémie a inspecté ces trois lieux ici. Donc cette partie-là, le numéro 7, 6, 5, et même la partie 12 et 13. En tout cas, c'est une partie de la muraille. Tout d'abord, vous indiquez que si Néhémie est allé jusqu'à inspecter cette muraille, c'est parce qu'il y a un lien profond entre Néhémie et son peuple. Il était à Suse, loin de Jérusalem. Il a attendu les nouvelles. Et ça l'a touché profondément, cette nouvelle. Il a prié pour cela. Et au travers de cette situation, il a perçu l'appel de Dieu. Il a accepté d'aller jusqu'à Jérusalem alors qu'il avait une position confortable en tant que fonctionnaire, homme de confiance du roi. Et il est arrivé à Jérusalem, il a voulu vraiment inspecter le lieu. Il voulait voir les choses. Et après avoir vu les choses, il a encouragé son peuple. Mais en relevant le fait que Dieu a dirigé sa vie jusque-là. Ce qui a touché le peuple de Juda ou de Benjamin, donc, qui est revenu de l'exil, a touché Néhémie. Mais ce qui a aussi touché Néhémie quand il est allé inspecter le lieu, touche aussi le peuple parce qu'il a aussi encouragé le peuple à agir et à réagir. Il y a ce lien profond entre Néhémie et son peuple. Et à la suite de ce lien, il a inspecté ces trois lieux, ces trois portes plutôt. Et au travers de ces trois portes, j'aimerais relever trois domaines spirituels aussi qui peuvent représenter des brèches dans notre vie personnelle et dans la vie de l'Église. Il y a tout d'abord la porte de la vallée. Donc la porte de la vallée, ça va dans la direction de la vallée de Hinnom, donc c'est cette vallée, hein, juste à la sortie, donc il y a cette vallée de Hinnom qu'on voit tout de suite. En fait, cette vallée, c'est un ravin profond et étroit avec des pentes raides et rocheuses, donc au sud et à l'ouest de Jérusalem. Donc, c'est quelque part, il y a une protection pour Jérusalem, c'est pour protéger Jérusalem parce que le lieu est difficilement accessible par là. Mais malgré tout, la muraille est détruite, les portes sont détruites, donc quelque part, il y a des failles au niveau de la sécurité. Donc, dans le domaine de la sécurité, il y a un problème. Et si j'essaie de transposer cela par rapport à notre vie spirituelle, il se peut qu'il y ait aussi des problèmes d'insécurité, enfin de sécurité dans notre vie avec des problèmes qui ne sont pas résolu devant Dieu, mais que l'ennemi utilise. Et dans ce sens, on peut parler de protection, la muraille comme une protection. Il peut y avoir des liens dans nos vies, des choses que nous entretenons, des choses que l'esprit révèle que c'est pas, ça nous fait du mal, que ça empoisonne notre vie, mais que nous entretenons. Et en fait, l'ennemi, connaissant cette situation, peut exploiter ce lien-là pour détruire notre vie. Et il se peut que nous avons une certaine idée de sécurité, mais oui, mais les ravins, là, ça va nous protéger. Mais cette protection n'est pas suffisante. Tant que le mur est troué, tant qu'il y a des liens qui sont entretenus. Donc, cette muraille que Néhémie est en train de rebâtir, c'est une muraille de protection. Et il y a une troisième porte. C'est la porte du fumier. En fait, c'est par là qu'il y a les déchets. Hein. Donc, il y a toute une histoire par rapport aux déchets sur ce lieu-là. Mais c'est la porte du fumier. D'ailleurs, ça indique cela. Il y a les déchets qui sont mis là, juste à l'extérieur. Et il peut avoir aussi, justement, si c'est troué, si c'est détruit, il y a aussi un problème de déchets. On peut même dire un problème écologique. On peut voir des déchets partout. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter des villes où on voit des déchets partout. Il y a l'odeur, il y a la fumée, c'est sale partout. J'ai eu l'occasion. Je suis suffoqué des fois. Mais il y a ce problème de déchets. Et en fait, par rapport à notre vie, ça peut être des polluants de la vie spirituelle. Des choses qui polluent notre vie spirituelle, qui polluent notre pensée, qui polluent notre regard, qui polluent notre manière de faire, mais que nous entretenons. Et que nous ne prenons pas la peine, que nous n'agissons pas pour mettre ces déchets ou ces pourritures hors de notre vie. D'où la nécessité d'une purification par Dieu, accomplie par Jésus-Christ et avec l'aide aussi du Saint-Esprit. Et puis il y a une troisième porte, c'est la porte de la source. Donc, pour aller vers une source d'eau, donc ça indique aussi la gestion des eaux. Mais en fait, il y a une autre porte, donc c'est pas indiqué, enfin si, c'est indiqué sur le plan, mais il y a la porte des eaux. En fait, la porte des eaux, ça sert d'une, ça mène vers la source principale qui alimente Jérusalem. Donc ici, c'est pas vraiment la source principale, mais on peut aussi voir ici une question de ressourcement. Donc il peut aussi avoir un problème de ressourcement spirituel dans la vie de l'Église. Quel est le domaine qui sont sensibles dans notre vie d'Église? Quels sont les points vulnérables dans notre vie d'Église? Il se peut que un de ces points vulnérables touche notre vie d'Église, mais ne touche pas notre vie personnelle. Mais que nous avons une sensibilité par rapport à ces domaines-là. Et ce matin, j'aimerais vous dire que si vous avez cette sensibilité, agissez, levez-vous, agissez dans cette direction, non pas pour continuer à détruire, non pas pour dire, regardez, c'est détruit partout, mais bâtissez. Encouragez l'Église pour que ces brèches soient réparées. Mais il se peut aussi que ces points vulnérables de l'Église renvoient ou nous renvoient à nos points vulnérables. Et dans ce sens-là, l'Église est là aussi pour vous aider. Mais vous êtes aussi appelé à résoudre ces points vulnérables. Et c'est dans ce sens que je peux aussi voir cette grâce de Dieu qui se manifeste. Parce que ces brèches qui sont là, qui peuvent être là dans la vie de l'Église ou dans la vie personnelle, ces brèches peuvent être là comme le lieu où passe la lumière de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu peut passer au travers de ces brèches pour que la muraille soit reconstruite. Mais nous sommes tous impliqués pour réparer ces brèches. Et c'est dans ce sens que j'aimerais lire ce passage. Dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu, qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Le culte est effectivement un événement qu'on célèbre une fois par semaine. Mais le culte n'est pas uniquement cela. Le culte, c'est notre consécration quotidienne à Dieu. Et le culte que nous faisons ici, aujourd'hui, maintenant, c'est l'expression de cette consécration quotidienne. C'est pour cela que nous sommes tous impliqués pour réparer les brèches dans l'Église. Même si parfois, ces points vulnérables de l'Église ne concernent pas nos propres points vulnérables. Mais nous sommes tous impliqués. Mais nous sommes tous impliqués pour vivre au travers de ces brèches que nous constatons, vivre la grâce de Dieu. Parce que si ces brèches existent, il ne faut pas se cacher le visage. Il ne faut pas les ignorer. Il ne faut pas cacher ces brèches comme Néhémie a fait. Il a montré ces brèches et il a encouragé le peuple à réparer ces brèches. Et sur ce point-là, il y a une phrase que j'aimerais vraiment, qui me semble importante pour dire à propos de cette réparation des brèches, à propos de ces points vulnérables que nous sommes appelés non pas à cacher, mais à mettre en lumière, laisser la lumière de la grâce toucher ces points-là et les régler devant Dieu pour que ces grâces se manifestent et que ça soit à la gloire de Dieu. Et ce que j'aimerais dire, c'est que l'Église n'est pas un musée de gens sans problème, mais un lieu où on apprend à vivre dans la grâce de Dieu. Où les brisés sont restaurés, où les faibles sont renouvelés, où ceux qui ont des problèmes ont la liberté de parler de leurs problèmes pour qu'ensemble nous puissions réaliser profondément la grâce de Dieu. Ces brèches qui sont là, qui sont à exposer, qui sont à reconnaître, sont des opportunités pour laisser entrer la lumière de la grâce de Dieu et restaurer la vie de l'Église et restaurer notre vie personnelle. Un deuxième point, voilà, juste avant de passer au deuxième point, il y a ces questions-là que je pose. Comment évolue la construction du bâtiment et comment prier pour qu'il serve à la gloire de Dieu? Comment faire pour que ce bâtiment soit durable? Comment faire pour que ces ouvriers qui sont en train de construire ce bâtiment réalisent qu'il y a quelque chose de plus dans ce bâtiment, parce que dans ce bâtiment, nous allons adorer Dieu, nous allons glorifier Dieu, nous allons proclamer le message de la parole de Dieu. Comment faire pour que ce bâtiment soit bien perçu par la population, pour que ce bâtiment soit perçu comme un lieu de grâce par la population? Et en même temps, quels sont les points vulnérables à régler dans la vie communautaire? Il ne s'agit pas de les cacher. Il s'agit de les reconnaître pour vivre ensemble la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu n'est pas abstraite. Elle est profonde, elle est concrète. Elle va plus loin même vers dans nos impossibilités. Et la grâce de Dieu même nous transforme, nous relève, nous encourage. Et nous restaure. Un deuxième point, je vais passer rapidement parce que j'ai passé trop de temps par rapport au premier point. Tous impliqués, non seulement pour réparer les brèches, mais tous impliqués pour servir selon les dons spirituels qu'il a reçus. Quand on a vu, en fait, l'organisation des travaux dans le chapitre 3, on voit que chacun a son secteur. Et qu'en même temps, le travail est simultané. Donc, le travail se passe en même temps, même si Néhémie décrit les travaux, donc à partir de la porte de Rubis, dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, on voit que le travail se fait simultanément, secteur par secteur. Et il n'y a pas de concentration à un endroit. Mais partout, dans différents secteurs, il y a toujours des gens qui sont impliqués. Et même si chacun est impliqué dans son secteur, il y a aussi en même temps ce plan d'ensemble. Il y a une construction commune. Et on peut voir aussi ici un parallélisme par rapport aux dons spirituels que nous avons. Chacun a sa place. Et j'aimerais lire ce passage dans Romains 12, Versets 3 à 8. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée, dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous, dans un seul corps, a de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par la grâce des dieux différents, pour l'un, c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service qu'il se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse avec sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Avec les anciens, nous proposons à l'Église une vision, une mission, enfin des missions et des secteurs aussi, et des activités. L'importance de l'Église et de l'organisation de l'Église. Et l'objectif de cette vision, de ces missions, de ces secteurs aussi, c'est de permettre à chacun de trouver sa place selon les dons spirituels qu'il a reçus. Parce que le Saint-Esprit a donné à chacun, à tous ceux qui ont reconnu Jésus-Christ, des dons spirituels, au moins un. Et si nous sommes 80 ici, il y a au moins 80 dons spirituels présents ici. Mais si nous ne les utilisons pas, si nous ne les mettons pas en valeur, on se prive quelque part d'une richesse que Dieu nous donne. Quelque part, on met de côté la grâce que Dieu veut manifester dans l'Église, parce que les dons spirituels en grec, c'est charismata, donc c'est pluriel, charismata, c'est les dons, donc ce sont des dons gratuits de Dieu. Donc c'est un don gratuit que Dieu donne à chacun d'entre nous pour que nous puissions les utiliser pour l'édification commune. Et comme ces différents constructeurs dans la reconstruction de la muraille, chacun d'entre nous sont ces constructeurs quelque part pour construire l'Église au travers des dons de chacun et chacune. Mais que le don soit mobilisé, les dons spirituels dans l'Église soient mobilisés, qu'il n'y ait pas de fausse humilité. Donc au début, là, que chacun ait une bonne estime de soi, c'est-à-dire ne pas s'estimer au-dessus de ce qu'il est, ni trop haut, ni trop bas. Mais souvent, il y a une fausse humilité. Quand on dit, voilà, j'ai tel ou tel don, on n'ose pas le dire parce qu'on a une fausse humilité. Mais quels sont vos dons spirituels? Et mettez-les en service, mettez-les en valeur pour la gloire de Dieu. Et l'Église, quelle est votre part dans la construction de l'Église, de bâtiment, selon les dons que vous avez aussi? Et quelle est votre part dans la construction de l'Église en tant que communauté, pour communauté de disciples, pour l'édification de l'Église? Si au départ j'ai donné une définition de l'Église comme n'étant pas un musée de gens sans problème, dans ce dernier point, j'aimerais dire que l'Église n'est pas un lieu de spectacle où il y a des acteurs d'un côté, d'un certain nombre, et des spectateurs de l'autre côté, un grand nombre, mais l'Église est le lieu où tous sont acteurs. Parce que tous ceux qui font partie de l'Église et qui reconnaissent Jésus ont reçu les dons spirituels et nous sommes ensemble. Nous pouvons être ensemble pour construire l'Église pour la gloire de Dieu. Donc l'Église, c'est le lieu où la grâce de Dieu se manifeste et l'Église, c'est le témoin aussi de la grâce de Dieu et que cette grâce de Dieu soit réellement vécu, vu, su, soit visible, pas seulement dans notre Église, mais dans cette région. Merci.